7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est le directeur du département d'économie de l'École normale supérieure.
Et bonjour à vous, Daniel Cohen.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. On va essayer de comprendre avec vous quelle est la situation réelle de notre économie en cette rentrée si étrange, si atypique, si bizarre, si incertaine. L'INSEE a donné ses chiffres hier, un chômage à 9,5% à la fin de l'année, une reprise qui a été très forte après le déconfinement, mais qui plafonne globalement depuis l'été, et des Français qui préfèrent épargner plutôt que de consommer. Daniel Cohen, si vous étiez Hibernatus ces 6 derniers mois et qu'on vous avait décongelé le 1er septembre, comment jugeriez-vous l'état de l'économie française en cette rentrée 2020 ?
Ça dépend exactement à quel moment j'aurais été congelé pour bien apprécier les choses. Mais
le 16 mars, pile au moment où on rentre dans le confinement.
Donc effectivement, ce serait incroyable parce que on va enregistrer cette année une perte de PIB. L'INSEE dans sa livraison d'hier l'estime à 9%. C'est un tout petit peu mieux que ce qui avait d'ailleurs été prévu par le gouvernement à moins 11%. Mais enfin, on est sur, disons, 10%. C'est environ 250 milliards d'euros qui ont été volatilisés au cours de cette période. Donc c'est un choc énorme. Le choc sur l'emploi est aussi énorme. Il y a plus de 700 000 emplois qui ont été détruits au cours du semestre dont on parle. C'est-à-dire plus que tout ce qui a été créé depuis 2017. C'est-à-dire qu'on est revenu d'une certaine manière brutalement en arrière, presque à l'époque où François Hollande était encore à lutter pour l'inversion de la courbe du chômage. Donc oui, c'est du point de vue d'Hibernatus que vous me demandez d'adopter, c'est un cataclysme
sans précédent. Vous hallucineriez.
Hallucinant. C'est-à-dire que le premier trimestre qui n'a pas été le plus touché a fait plus de dommages que mai 68 avec ses grandes grèves. C'était l'INSEE, Coquin avait remarqué ça, que la baisse de PIB au second trimestre 68 avait été moindre que le premier trimestre de cette année avant que le confinement commence. Donc c'est dire qu'on est dans quelque chose d'inédit, vraiment.
Vous parlez de ce choc hallucinant, de cette crise immense, de ce retour en arrière de 10 ans peut-être. Les Échos, et comment vous expliquez que les Échos publient en ce début d'année un sondage sur l'état d'esprit des chefs d'entreprise, et étonnamment, eh bien les patrons sont plutôt confiants en cette rentrée, ils sont plutôt positifs. C'est bizarre, c'est de la pensée positive, c'est quoi votre
avis ? Tout est relatif dans la vie, je ne vous apprendrai pas ça, et notamment aussi le point de vue qu'on porte sur la situation, c'est-à-dire que pendant le confinement et juste après, l'effondrement a été encore plus extraordinaire que les moyennes dont on parle sur l'année. On était sur moins 30% d'activité. En fait, dans le secteur privé, c'était plutôt moins 50%, c'est-à-dire que l'économie française était sous anesthésie pour la moitié d'entre elles. Et puis, bon, c'est pas tout à fait surprenant. Avec la fin du confinement, on s'est rendu compte que le corps social n'était pas cassé. Ça n'était pas comme après une guerre, les infrastructures n'étaient pas détruites. Ça n'était pas non plus comme une épidémie normale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de morts en réalité. C'était des mesures préventives. Donc en fait, dès qu'on a eu le sentiment que la crise sanitaire s'achevait, les choses sont reparties assez vite. On est passé de moins 30 à moins 5, moins 4 peut-être en ce moment. Donc ça fait un rebond. Mais le problème d'aujourd'hui, c'est que ce rebond, il est en train de caler parce qu'on est tous collectivement en train de découvrir que la crise sanitaire est toujours là. Donc ce moment d'optimisme, c'est peut-être un soulagement que ça n'a pas été pire, mais la réalité c'est que ça plafonne, ça stagne, parce qu'on a toujours ce mur du virus qu'on n'est pas du tout en train de franchir aujourd'hui.
Et c'est ça le problème, c'est tant qu'il y aura une incertitude sanitaire sur est-ce qu'il y a une deuxième vague, est-ce qu'on va devoir reconfiner, etc., ça ne reprendra pas, c'est ça, les Français vont continuer à épargner, les fameux 85 milliards qu'on ne dépense pas.
Bien sûr, mais on parle que s'il y a une deuxième vague, mais il y a une deuxième vague. En réalité, la France est le seul pays avec l'Espagne à avoir connu un tel rebond. Les épidémiologiques résonnent en taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas de la semaine passée par 100 000 habitants. On était à 4, le seuil de vigilance était à 10, le seuil d'alerte était à 50, on a franchi tous ces caps. Là, aujourd'hui, le chiffre moyen de la semaine passée, c'est 70. Il y avait un article hier sur l'Espagne qui était apocalyptique, elle est à 100. On est déjà à 70. Donc, oui, on est en pleine recrudescence. La bonne nouvelle, c'est que c'est les jeunes, donc il y a très peu de décès, mais ça veut dire qu'on est sur des chiffres très importants. Pas aussi importants qu'en mars, parce qu'on les mesurait pas de la même manière, mais dans l'absolu, ce sont des chiffres hallucinants, en réalité.
Alors, le plan de relance, 100 milliards d'euros annoncé la semaine dernière, une opération bazooka, commentait Dominique Seux. Un tiers de ces 100 milliards pour la compétitivité des entreprises, un tiers pour la sauvegarde de l'emploi et un tiers pour la transition écologique. Ce plan vous semble-t-il à la hauteur des enjeux et des besoins ?
En masse, quand on regarde les chiffres, 100 milliards, 4 points de PIB, oui, c'est très significatif. Vous me disiez, hibernatus. Si on avait dit en février, tiens, on va dépenser 100 milliards pour la transition écologique, pour la formation des jeunes ou pour la compétitivité, et bon, j'aurais dit, calmez-vous, ça va pas. Bon, et on est là-dedans. Donc on est dans une période, en effet, où les murs de la rigueur budgétaire ont été fracassés. Et puis la répartition n'est pas mauvaise. 30 milliards pour la transition écologique, pour à peu près la même chose pour la cohésion sociale et pour la compétitivité. Donc dans l'ensemble, le paramétrage n'est pas aberrant. Quand on regarde un peu dans le détail, il y a un mais quand on commence comme ça, mais c'est qu'en fait c'est un plan de long terme, c'est un plan de compétitivité de long terme. Or il y a une urgence à court terme. Et là le paramétrage n'est pas le bon, je crois.
C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils auraient dû faire qu'ils n'ont pas fait ?
Par exemple, déjà le paramétrage, on prévoit sur ces 100 milliards parce que c'est un plan compliqué, il y a des dépenses tous azimuts, il faut les mettre en place, donc c'est du temps pour absorber tout ça. Sur l'année 2021, ce qui est prévu, ça n'est que de dépenser 30 milliards de ces 100 milliards. Et sur ces 30 milliards, il y a 10 milliards de baisse d'impôts de production dont les effets sont très lents. En réalité, personne ne s'attend à ce que tout d'un coup, les entreprises, grâce à ça, recommencent à embaucher. C'est plutôt pour le long terme. Donc en fait, il n'y a que 20 milliards, c'est-à-dire moins de 1 point de PIB à court terme, sur l'année 2021, qui à proprement parler va soutenir l'économie. Donc je pense que c'est insuffisant. Enfin, j'en suis.
C'est-à-dire que vous auriez aimé voir quoi ?
J'aurais aimé,
par exemple, concrètes.
Oui, concret, par exemple, Laurent Berger parlait de chèque vert. Au lieu de faire des dispositifs un peu compliqués, nécessaires, mais qui vont prendre du temps et qui, en réalité, ne sont pas sur juste 2 ans, vont devoir durer bien davantage. Donc il y a quelque chose sur ces dépenses dont il faut parler sur le long terme et sur leur coût social. Mais à court terme, un chèque vert, vous donnez à quelqu'un une année pour dépenser dans des items qui contribuent à lutter contre le réchauffement climatique. Les uns vont acheter une bicyclette, les autres vont installer des panneaux solaires, les troisièmes vont peut-être créer de l'isolation thermique. Vous donnez les moyens de dépenser, vous pouvez les cibler sur les personnes en difficulté.
Et là, on aurait vu directement
Les gens l'auraient dépensé, par définition, puisqu'eux, ils ont un an pour le faire. Donc là, on est certain qu'on l'aurait dépensé. Bon, de même, les mesures de soutien aux personnes en difficulté, je pense que c'est insuffisant. Il y a 6 milliards et demi pour le chômage partiel. On aurait pu faire plus. Cette année, on va dépenser 30 milliards. On aurait pu accompagner davantage les personnes qui sont touchées par des baisses de revenus. Pour les entreprises elles-mêmes, il n'y a que 3 milliards qui est prévu pour recapitaliser les entreprises qui vont avoir des difficultés de paiement, qui ne vont pas pouvoir payer leurs charges fiscales. Bon, là, pour le coup, tout le monde sait que c'est insuffisant.
Le chômage partiel, ce bouclier anti-licenciement, devrait s'arrêter ou en tout cas diminuer le 1er novembre. Vous pensez que c'est réaliste ?
Je pense que non. Je pense qu'on va bien se rendre compte que le choc est toujours là et que donc il faut continuer. Et c'est ce genre de choses. Encore une fois, je ne fais pas le procès du dogmatisme au gouvernement. Je pense qu'il va être capable de s'adapter à la situation. Mais là, aujourd'hui, ce plan, enfin, je crois que tous les commentateurs le disent, il est sur le long terme. Or, il y a une urgence de court terme que peut-être le gouvernement, dans l'euphorie de la reprise de juillet, a sous-estimé. C'est tout à fait comme les jeunes sur les plages. Le virus a été sous-estimé. Il est là. Et donc, l'urgence de court terme est là. Et les chefs d'entreprise, quand on les interroge, ils sont surtout inquiets par leurs débouchés, par leur demande sociale, plus que par leur compétitivité.
Comment vous expliquez, Daniel Cohen, l'engouement pour les junk bonds sur les marchés financiers, ces obligations pourries qui rapportent beaucoup et on investit sur des entreprises qui vont mal. Et ça atteint des records à Wall Street, à la City, à la Bourse de Paris. Il n'y a pas de mauvais moment pour faire de bonnes affaires ?
C'est le fait qu'en réalité, on est dans une période où les taux d'intérêt sont historiquement au plus bas. En partie parce que la Banque centrale a décidé que les taux seraient bas, mais aussi parce que à long terme, les investisseurs eux-mêmes sont très inquiets. On parle d'une crise d'incertitude. Les investisseurs aussi, en réalité, ont très peur sur le long terme. Donc, ils sont prêts à acheter, par exemple, des emprunts d'État français à 50 ans avec des rendements de moins de 1%. C'est le prix de la sécurité. Donc, ce faisant, ils ont besoin de rendement et donc ils vont chercher de manière un peu schizophrénique à la fois un maximum de sécurité avec des emprunts d'État et des emprunts
et des paris.
Pourris, de faire des paris à côté. Donc vous mettez la moitié en père de famille à 0%, voire à des rendements négatifs quand il s'agit de l'Allemagne et de la France. Et puis à côté, vous faites le dingue, vous allez à la loterie. Parce que c'est comme ça qu'en moyenne, vous essayez de retrouver du rendement.
Merci Daniel Cohen, Hibernatus. Donc merci pour ce moment décongelé. Belle journée à vous.
Merci de m'avoir décongelé.
Merci à tous les deux.